Ce sont les aéroports, les barrages, les centres commerciaux ou les autoroutes de la colère. Chaque année dans notre pays, de plus en plus d'infrastructures suscitent la mobilisation de centaines de collectifs citoyens qui s'opposent à l'installation ou à l'extension de ces projets d'envergure. Cette histoire des luttes a commencé dans les années 70 avec de vastes projets d'aménagement du territoire comme dans le Larzac. Mais depuis une dizaine d'années, on assiste à une montée en puissance des contestations envers ce qu'on appelle les grands projets inutiles et imposés. Reporter, le quotidien de l'écologie, publie aujourd'hui une carte de ces luttes qui est aussi un outil de mobilisation. C'est le dossier de la Terre au carré pour comprendre quels sont justement ces projets et ceux qui mobilisent, ceux qui les combattent. J'attends dès maintenant vos questions, vos témoignages. 0145 24 7000, franceinter.fr et bien sûr les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert avec vous dans un instant.
Et je vais vous parler de la Convention citoyenne pour le climat. Alors beaucoup vont dire la quoi ? Eh bien justement, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas.
Dans la deuxième demi-heure, un nouveau reportage d'Antoine Lee consacré à ses activités qui prônent la sobriété. Il sera question de serres connectées aujourd'hui. Vos solutions pour la planète avec un projet pour valoriser les déchets viticoles. Et puis enfin, notre invitée découverte est Odile Petit. Elle est présidente de l'association Éthosphère qui mène des actions pour la réhabilitation, la resocialisation et le bien-être des animaux. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Michel Bézikian et Clément Vuillet.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Recours juridique, pétition, porte-à-porte, occupation, désobéissance civile ou action directe sont autant d'outils qui ont permis de remporter des luttes comme Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A45 ou plus récemment Europa City.
Et les luttes contre les grands projets inutiles, c'est donc le dossier de la Terre au carré en partenariat donc avec Reporter, le quotidien de l'écologie qui, je vous le disais, donc publie aujourd'hui une carte sur son site internet de ces luttes qui mobilisent partout en France, donc des collectifs de citoyens. Pour en parler et répondre à vos questions, entendre également vos témoignages, je suis avec Lauriane Cholez, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste indépendante pour Reporter et c'est vous qui signez justement cette enquête et la carte des luttes. Et puis Léa Sébastien, vous êtes avec nous en duplex des studios de France Bleu Occitanie à Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'université Toulouse 2, où vous menez donc, Léa Sébastien, des recherches sur les conflits d'aménagement et l'attachement aux lieux. Et vous êtes co-auteur d'un livre, Résister aux grands projets inutiles et imposés, de Notre-Dame-des-Landes à Bure, un livre qui est paru aux éditions textuelles en mars 2018. Lauriane Cholez, racontez-nous d'abord dans quel contexte vous avez été amenée à construire cette carte des luttes contre les grands projets dont on va parler avec vous alors.
Alors c'est vrai que chez Reporter, on publie beaucoup de sujets sur des luttes locales contre ces grands projets inutiles. Et l'idée est venue avec deux ONG, donc Partager c'est sympa, et l'ONG Le Mouvement de mobilisation citoyenne, d'essayer de faire un recensement en fait de toutes ces luttes. Il y avait déjà eu des cartes contre les grands projets inutiles, mais on sentait qu'il y avait besoin d'une mise à jour et surtout de montrer des luttes qui étaient peut-être moins médiatiques que Notre-Dame-des-Landes ou le centre d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Donc on a décidé de faire ça et pour ça on s'est basé notamment sur il y a une charte en fait des grands projets inutiles et imposés qui a été adoptée lors du Forum social mondial de Tunis en 2013. Avec plusieurs critères en fait. Il y a tout d'abord le critère du désastre écologique, hein, ça détruit l'environnement. Le critère socio-économique, humain, et aussi un critère démocratique, c'est-à-dire que ces projets généralement n'intègrent pas la population dans les choix en fait, dans la décision. Et les administrations agissent un peu souvent dans l'opacité, manque de transparence. Et c'est tout ça en fait qui crée un grand projet inutile et imposé.
Ouais, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de faire une carte de ceux qui luttent plutôt que des projets en eux-mêmes?
Parce qu'en fait, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'élèvent un petit peu contre l'injustice. Il y a une question de territorialité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on habite dans un petit village et c'est la campagne, c'est très joli, et puis un jour, on découvre dans le plan local d'urbanisme qu'une la forêt dans laquelle on va ramasser ses champignons avec ses enfants va être rasée pour construire un centre commercial. Et là, en fait, ce sont souvent des gens qui ne sont pas politisés à la base, même pas forcément écolos, et qui se disent qu'un fort sentiment d'injustice, et ils se disent qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais monter un collectif et je vais essayer de me battre contre ce projet. Donc c'est pour montrer que c'est pas uniquement les grandes ONG qu'on connaît, qui soient France Nature Environnement, ATTAC, la Confédération Paysanne, qui elles historiquement se battent évidemment contre beaucoup de projets inutiles, Mais ce sont juste des citoyens, en fait, des gens normaux. Ça peut être votre cousine, votre tante, qui...
Ma grand-mère, même peut-être,
c'est ça.
Qui monte au créneau.
Qui monte au créneau et qui se rassemble et qui, tout doucement, en fait, on commence par se rassembler et s'informe et deviennent des experts en fait sur chacun des sujets. Mmh. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que au fil du temps, parce que c'est des collectifs qui durent des années, hein, c'est pas une lutte qui se gagne comme ça en quelques semaines, ils deviennent vraiment des experts sur les sujets, des experts sur le déchet, des experts sur le nucléaire, des experts sur l'aménagement du territoire et à la fin souvent arrivent à faire un contre-projet. Voilà.
Alors, avant de passer évidemment à la discussion avec Léa Sébastien, combien de luttes est-ce que vous avez recensé pour la carte?
Alors là, c'est la deuxième version de la carte, on en a 216. Mm-hmm. J'en ai encore à peu près au moins 200 à vérifier parce qu'on a un formulaire sur lequel les gens nous envoient des luttes. Et donc, c'est un travail journalistique, hein. Moi je vérifie chaque lutte, j'envoie des mails, je vérifie qu'elles existent encore, que ce soit vraiment des luttes et pas juste des gens qui sont pas contents que ça se fasse à côté de chez eux. Et suite à ce processus en fait de vérification journalistique, on publie ensuite la lutte sur la carte.
Alors, il y a cette catégorie hein, qui apparaît justement sur la carte, le bétonnage, le transport, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, les déchets et le commerce. Léa Sébastien, d'où vient cette expression donc de grands projets inutiles et imposés en France, donc le GPII?
Alors, le GPDSI, effectivement, vient de ce premier forum dont on a parlé et associé de différentes chartes, la charte d'Hendaye et la charte de Tunis. Où c'est, il y a eu un tournant vraiment dans, alors c'est pas nouveau, hein, les luttes contre les grands projets, disons, depuis les 30 glorieuses, le fameux l'âge d'or des aménageurs, où il fallait développer la France, avec des projets toujours plus grands, toujours plus rapides. Et comme vous le disiez dans votre introduction, il y a eu des grandes luttes emblématiques, le Larzac, Plogoff, puis à partir des années 80, disons, si je fais rapidement un petit historique, des conflits déjà plus régionaux avec l'apparition de cette commission nationale du débat public en 95. Mmh. Et à partir des années 2000, on voit cette multiplication des luttes vraiment à un niveau local, où là, partout, effectivement, comme on le disait, des hommes et des femmes se réunissent pour s'opposer à une décharge, une autoroute, un parking, un supermarché. Donc, contre des grands projets, mais aussi des petits projets d'une nature, de différentes natures. Et il y a eu ce tournant, effectivement, à partir des... On le situe, disons, en 2008-2010, où il y a eu cette nécessité de regrouper l'ensemble de ces mouvements qui étaient avant considérés de manière disparate. Mmh. Donc cette nécessité de vouloir les rassembler autour de ce forum des grands projets inutiles et imposés, donc grands par rapport aux coûts et aux impacts qu'ils représentent, inutiles. On se pose la question, est-ce qu'un projet répond aux besoins des populations locales ou non? Est-ce qu'il entre dans ce qu'on appelle l'intérêt général? Qui est légitime pour le porter aujourd'hui et imposer? Et c'est ce qu'on disait aussi, est-ce qu'on est plutôt dans un passage en force ou est-ce qu'il y a eu une véritable concertation locale, une gouvernance locale dans l'élaboration des projets? Parce qu'on se rend compte, parfois les militants s'opposent aux projets directement ou alors ils ne s'opposent pas forcément au projet, c'est le cas par exemple dans les parcs éoliens, mais à la manière dont ils sont imposés sur le territoire.
Alors justement Léa Sébastien, est-ce qu'on peut parler de mouvement de résistance de la part des personnes là, qui se mobilisent autour de ces projets?
Oui, je dirais même plus, moi j'emploie le terme de résistance éclairée. Mmh. Pendant très longtemps, on a affublé ces militants, vous le disiez dans votre introduction, du NIMBY, Not in my backyard, donc pas de ça chez moi, des opposants qui étaient considérés comme des irrationnels, qui souhaitaient faire barrage au bien commun, à l'intérêt général. C'était des ignorants et des égoïstes. Et il y avait toutes sortes de trucs et astuces pour faciliter l'acceptabilité sociale des projets sur les territoires. Ça a duré pendant pas mal d'années dans les médias, dans la littérature scientifique aussi. Mmh. Et heureusement, on utilise de moins en moins cette expression de NIMBY, ou plutôt même NIABY, not in anyone's backyard, c'est-à-dire ni ici, ni ailleurs. Et on pourrait parler aujourd'hui de plus en plus d'une résistance éclairée. Éclairée par quoi? Parce qu'on se rend compte que ces mouvements, ils créent de véritables transformations sociétales sur les territoires. Comme on le disait, ces mouvements s'inscrivent sur le temps long, hein, c'est 5, 10, 15, 20 ans, des décennies pour lutter contre un projet. Et ça engendre plusieurs transformations sociétales. D'abord au niveau social, hein, il y a une dynamique sociale qui est engendrée par ces résistances, avec des alliances uniques et improbables qui se créent. On voit la forte hétérogénéité sociale qui existe au sein de ces collectifs, comme c'est ça, ma grand-mère, autant qu'un expert. C'est vraiment intéressant, toute catégorie d'âge, toute classe sociale. Il y a aussi, au niveau de la transformation sociétale, au niveau des connaissances acquises au cours du processus de résistance, effectivement, les profanes deviennent savants sur les décharges, ouais, sur les autoroutes, sur peu importe la thématique. On assiste à ce qu'on appelle des duels scientifiques, hein, de véritables contre-expertises, où les militants se permettent, à juste titre, de proposer, de faire des propositions scientifiques, des contre-projets, etc. Ouais.
On va y revenir avec vous, Léa Sébastien, dans un instant, parce que le temps passe et les auditeurs souhaitent évidemment intervenir, donc on va en parler. Il faut dire aussi que cette carte, Laurie-Anne Cholet, c'est un outil de mobilisation aussi, c'est un aspect très important de votre travail, on y reviendra. Et puis on évoquera pourquoi pas le poulailler industriel dans le Morbihan, l'incinérateur d'Ivry, le surf park à côté de Nantes, l'agrandissement de l'aéroport de Roissy, tout ça justement fait l'objet de résistance de la part de collectifs de citoyens. On en parle bien sûr dans la Terre au Carré, avec les coups de fil des auditeurs au 01 45 20 4-7000. À tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille, vous nous parlez aujourd'hui dans votre rendez-vous de la Convention citoyenne pour le climat.
Oui, cette convention qui regroupe 150 citoyens tirés au sort pour parler climat un week-end par mois depuis octobre. Objectif 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, avec des propositions au printemps qui seront soit appliquées directement, soit votées par référendum, soit débattues au Parlement. Une idée d'Emmanuel Macron qui ira voir les 10 citoyens vendredi et leur a passé un petit message lors de ses vœux la semaine dernière.
J'attends beaucoup des propositions que préparent 150 de nos compatriotes qui se sont engagés dans la Convention citoyenne et travaillent depuis plusieurs semaines d'arrache-pied.
Sauf que la Convention citoyenne pour le climat, alors nous ici à la Terre au Carré et vous, certainement chers auditeurs, hein, on connaît, n'est-ce pas Mathieu? Mais demandez au hasard au coin de votre rue, ben vous allez voir, je l'ai fait hier soir. Est-ce que vous avez entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat? Est-ce que vous savez ce que c'est?
Non.
La Convention... des citoyens pour le climat.
De la citoyenneté pour le climat.
Jamais entendu parler?
Jamais.
Absolument pas. Non, la vraie.
Pas la moindre idée, madame. Je suis désolée. Je suis pas une bonne citoyenne.
Mais non, madame. Vous êtes presque comme tout le monde. Hein, sur 10 personnes de toute génération interrogées, un seul connaissait.
Oui, j'en ai entendu parler. C'est Macron qui a décrété qu'il fallait consulter les citoyens pour... prendre leur avis sur l'évolution, la transition climatique, tout ça.
Ouf, l'honneur est sauf. Mais les 150 citoyens en question savent, hein, qu'ils manquent de visibilité, comme Grégoire, 31 ans, habitant du Calvados.
Je trouve ça normal, dans le sens où on est dans une phase qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On est dans une phase de travail, dans l'audition d'experts, c'est quelque chose d'obscur, de très savant, donc c'est pas forcément ce qui buzz. Donc moi, je trouve ça normal, même si je trouve ça dommage. Parce que nous, on donne énormément de notre temps, on a été tiré au sort, donc on a candidaté à rien du tout, ça nous est tombé dessus, c'est une charge qui nous est tombée sur les épaules, et forcément, on a envie de faire partager cette charge avec le plus de monde.
Et il précise qu'il n'était pas du tout écolo ou engagé à la base. Daniel, électricien, lui, du côté de Foix, fait également le constat.
Non, très peu. Moi, bon, de par mon métier, j'ai des clients différents tous les jours, des particuliers. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est que la Convention citoyenne, quoi.
D'ailleurs, il nous a écrit il y a quelques semaines, il faut en parler davantage, car ces écolos du hasard, cela donne une fois par mois, donc, au Conseil économique et social. Guy, retraité, fait le trajet de son village du Limousin.
Je suis considéré comme celui qui va à Paris et qui va discuter de choses un petit peu nébuleuses, parce que même si on explique ce qu'est la convention, c'est pas évident d'expliquer ses finalités, quelle est sa légitimité et pourquoi on fait ça. On ne saura exactement ce qu'est ce machin qu'à la fin de la convention, une fois qu'on aura soumis nos propositions, si elles sont prises en compte et si elles vont dans le sens du mandat qui nous a été donné de réduire ces gaz à effet de serre. Donc, on pourra répondre à ce moment-là si c'est un machin ou pas.
Et oui, parce que certains sont sceptiques. Hein, vous peut-être d'ailleurs qui nous écoutez. Un nouvel outil d'affichage vert à la solde du pouvoir. Je précise quand même que la convention est indépendante. Ou un pétard mouillé à l'arrivée. Même Muriel, autre membre de la convention, s'est posé des questions.
Évidemment qu'on a été sceptiques au départ. On ne peut pas non plus croire que tout va se faire comme ça parce que nous, on arrive 150 citoyens et qu'on va être tout d'un coup en capacité d'apporter les meilleures solutions qui soient. Non, nous ne sommes pas décideurs. On est très réalistes. Mais on essaie. On essaie et on y croit malgré tout.
Et ils vous demandent d'y croire avec eux. Grégoire du Calvados, un message pour vous.
Bah, intéressez-vous-y. On est comme vous, justement, comme vous, les gens qui nous écoutaient, qui nous voyaient passer en se demandant, bah tiens, qu'est-ce qu'ils font? On travaille pour le bien commun, mais ce travail, on veut pas le faire que à 150, on veut le faire avec tout le monde.
Et alors devinez, à qui la faute si les gens ne s'y intéressent pas, hein?
Le fait que ça prenne, ça dépend des médias.
Mais voilà, ah bah oui, bim. Et puis vous aurez reconnu peut-être Cyril Dion, l'un des garants de la convention qui était venu ici dans l'Interro Carré en parler avant le lancement et que j'ai croisé il y a quelques jours.
J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, mais en même temps je sais comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a un certain nombre de médias qui se disent on reviendra quand ils auront quelque chose à nous dire. Donc ce qui va me décevoir beaucoup, c'est si on n'en parle pas à la fin.
Alors, réponse au printemps, la convention doit terminer ses travaux en avril, mais vous pouvez déjà être sûr qu'elle aura son nouveau gros quart d'heure de célébrité en fin de semaine, venu du président oblige.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
Lauriane Cholez, le pouvoir citoyen dans le cadre de cette convention, est-ce que ça peut aussi avoir une influence, comme les collectifs sur le terrain?
C'est une bonne question parce que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on sait qu'il faut prendre des mesures qui seront vraiment très impopulaires. Et donc c'est pas évident, enfin ça fait poser un très grand poids sur l'épaule de ces gens qui d'ailleurs c'est des gens qui ressortent donc ils ne connaissaient pas
forcément grand-chose. Qui se forment en cours de route aussi. Ouais.
Et bah, c'est également le cas en fait c'est dans ça, ces collectifs, hein, c'est vraiment une école un peu de la politisation.
Mais est-ce que ça peut faire le poids, pardon, face à des grandes multinationales, les lobbies dont on parle si souvent?
Alors parfois ça marche en fait, il y a des luttes qui sont victorieuses. Je pense, bon évidemment tout le monde peut penser à Notre-Dame-des-Landes hein, où ils ont gagné contre l'aéroport, mais il y a des luttes qui peuvent gagner contre des centres commerciaux. Par exemple, bah, il y a aussi très connu hein, Europa City, hein, où il y a une...
Gonesse.
Mais des plus petits projets hein, dont on parle que dans la presse locale, parce que ça n'intéresse pas le grand public. Mais oui, ça marche en fait.
Allez, on en discute dans un instant. Il y a beaucoup d'appels pour vous et de messages sur franceinter.fr pour résister aux grands projets inutiles et imposés. Michael Kiwanuka avec Hero à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, les grands projets inutiles et imposés de Notre-Dame-des-Landes à Bure. Il y a énormément d'exemples et c'est l'objet d'une carte publiée donc par Reporter sur le site reporter.net à partir d'aujourd'hui. Et vous êtes l'auteur Lauriane Cholès de cette enquête. Et puis avec nous également Léa Sébastien qui est en duplex des studios de France Bleu à Toulouse. On va tout de suite accueillir les auditeurs. Lionel est en ligne pour témoigner, je crois d'ailleurs. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Bienvenue à vous. On vous écoute, vous êtes où exactement ?
Alors moi je suis à Lucy-sur-Yonne, mais je vous ai appelé parce que ça rentre pile dans une manifestation importante, une mobilisation citoyenne contre le plan de servitude aéronautique qui va nécessiter, soi-disant, la destruction de 33 hectares de forêt pour l'aérodrome d'Auxerre, ouais. D'Auxerre-Branche dans l'Yonne.
Très bien. Est-ce qu'il figure dans la carte, Lauriane
Cholès ? Non, je suis désolée, je ne vous ai pas. Mais j'ai 10 aéroports quand même déjà. Ouais. Donc, mais en fait, ça montre bien qu'il y en a toujours. Ça arrive tous les jours. J'en ai des nouveaux. Ouais. Donc envoyez-le-moi, je le rajouterai.
Bien. Vous êtes très mobilisé, Lionel, sur cette question. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'entrer dans la lutte précisément ?
À la base, c'était une association que j'ai créée contre les pesticides dans l'eau du robinet. On nous a interdit de boire l'eau du robinet dans notre coin. Mmh. Mais ensuite, si vous voulez, on s'est associé avec la marche pour le climat, avec toutes les associations du département. Oui. Il se trouve que là, ça peut pas être le fait de reporters. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent et ils font ça très bien. Mais aujourd'hui, la montée de bouclier contre le plan de service de l'aéronautique est tout neuf, tout frais. Et donc, on manifeste demain devant la préfecture. Rendez-vous place de l'Arquebuse à Auxerre à 17h. Il y a une pétition qui commence à prendre beaucoup d'importance, parce que en fait, effectivement, ce que dit Reporter, c'est parfait. C'est-à-dire que toutes les luttes sont convergentes. C'est ces fameux projets inutiles. On n'est pas contre les avions, on n'est pas contre certaines avancées, mais encore une fois, il faut les faire dans de bonnes conditions, des conditions démocratiques. Or, actuellement, nous, ce qu'on nous propose, c'est tout simplement de détruire 33 hectares de forêt pour améliorer, soi-disant, un petit aérodrome qui n'a pas de trafic significatif. Voilà. Alors,
merci Lionel, en tout cas, pour votre témoignage.
On a justement un coup de gueule par rapport à ça de Laurent sur l'application France Inter. Affligé d'entendre des experts autoproclamés parler de projets inutiles au mépris de l'intérêt général. Ce sont les mêmes qui s'opposeront à la construction de nouvelles voies ferrées pour le fret, laissant ainsi prospère les camions sur les routes alors que c'est bon pour l'écologie. Et Clément dit, ces foyers de contestation relèvent plus du syndrome pas dans mon jardin, le fameux NIMBY dont on parlait, Léa Sébastien.
Vous voulez répondre, Léa Sébastien ?
Oui, mais alors après, c'est vrai que c'est difficile de faire une généralisation en disant, mais comment est-ce qu'on fait pour recenser déjà tous ces conflits et les classifier? Est-ce que certains est-ce que le NIMBY existe ou non? Comment définir si un projet est d'intérêt général ou pas? Donc, d'abord, je pense qu'il faut voir s'il répond ou non à une demande sociétale dans son origine. Ensuite, on peut voir s'il a été pensé dans une vraie concertation ou non. Regarder quels acteurs en sont le porteur et si ce projet répond à la nécessité de la transition écologique. Ces quatre questionnements sont déjà importants, je pense, à se poser pour essayer de situer les différents types de conflits qui existent sur le territoire.
Justement, Christiane sur Facebook, Léa Sébastien nous dit « Qu'est-ce qu'il faut penser des enquêtes d'utilité publique dont les conclusions sont presque toujours favorables aux municipalités qui ont initié les projets ?» Parce que c'est le problème démocratique qui est au cœur de ces luttes aussi.
Et c'est l'argument avancé, c'est ce qu'a le cas aux portes de Bretignolles par exemple en Vendée. Léa Sébastien.
Et oui, alors sur ces différents éléments qui existent, alors il y a l'enquête publique, il y a la commission nationale de débat public, il y a les analyses coûts-bénéfices sur ces différents outils qui existent pour essayer de clarifier, de rendre plus transparent l'ensemble de ces projets. On est obligé de constater l'échec de cette notion de gouvernance, cette belle notion censée inclure l'ensemble des acteurs locaux dans la décision qui n'a pas vraiment tenu ses promesses. Et au contraire, en visant le consensus à tout prix, on aboutit à une dépolitisation du débat et ces procédures ont pour objectif en fait souvent de valider des décisions qui sont déjà prises en amont et on va rarement discuter le fond, le bien fondé même du projet. Ça va être des petits aménagements à la marge.
Et ça, Lauriane Cholès, les citoyens ne supportent plus cela justement.
Absolument, en fait, les élus ne peuvent plus bétonner à tout va, en fait. Ils ne peuvent plus faire comme ils veulent. Les enquêtes publiques, c'était un petit peu une formalité qu'on faisait parce qu'administrativement, on devait le faire. Et aujourd'hui, les gens, en fait, ont envie d'être partie prenante de l'aménagement de leur territoire. Voilà.
On va accueillir Bruno qui est en ligne également avec nous dans une autre région de France. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Où est-ce que vous vous trouvez ?
À Caen.
Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe à Caen ? Alors racontez-nous.
Alors on a la chance à Caen d'avoir une grande place centrale qui s'appelle la place de la République. Et qui fait, je sais pas, moi, un hectare et demi. Mmh. Et la municipalité de Caen a eu l'idée en 2015 de vendre 5000 mètres carrés de cette place, qui 5000 mètres carrés qui sont plantés depuis 60 ans d'une soixantaine de tilleuls, et de vendre cette partie de la place publique pour faire un parking souterrain de 450 places dans un endroit où parce qu'il y a une rivière à Caen hein, qui passe et qui de temps en temps déborde, et donc c'est dans une zone d'aléas faible à moyen inondation. Mmh. Donc un parking souterrain dans une zone de ce type, c'est peut-être pas très bienvenu. En plus de faire venir des voitures dans le centre de Caen, alors que bon, le stationnement est très difficile. Et en outre, au-dessus de ce parking souterrain, il est question de construire un centre commercial de 19 300 m². L'idée était dans l'idée de la mairie, c'était de revitaliser le commerce de centre-ville. Mmh. Alors, on ne doute pas que ça puisse revitaliser les affaires des promoteurs de ce centre commercial, mais je doute fort que ça puisse revitaliser et rendre les commerces, les autres commerces de la zone plus florissants.
Alors, Lauriane Cholez, pour répondre, parce que ce projet est dans la carte,
hein,
des lutins.
Il me semble que c'est le projet de la halle gourmande, hein, si je me trompe pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'argument économique, c'est-à-dire revitalisation d'un territoire ou l'argument de l'emploi, il est toujours utilisé par les élus. Mm-hmm. Mais en fait, on sait qu'il est fallacieux parce que le portefeuille des gens n'est pas extensible. Hein. Mm. Si on recrée un nouveau centre commercial quelque part, eh ben on sait que les autres centres commerciaux aux alentours vont perdre des clients. Donc il faut faire très attention avec cet argument économique qui est vraiment utilisé comme un argument massue en fait dans les médias pour dire oui, on a besoin de ce centre parce qu'on a besoin de plus d'emplois et de plus d'activités économiques.
Ouais, et là encore, les gens ne sont plus dupes. Hein. C'est ça aussi qui a changé finalement au fil des décennies. Hein.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a toute l'idée de la croissance infinie, du progrès, enfin tous ces paradigmes un peu qui sont hérités vaguement des Trente Glorieuses. C'est remis en cause en fait. Les gens aujourd'hui, ouais, ils s'informent, ils sont conscients. Ils ont vraiment envie c'est une question d'imaginaire, des nouveaux imaginaires plus résilients, peut-être j'irais même décroissants, attention, c'est un mot un peu.
Mais c'est vrai que les gens sont prêts à moins consommer, à rouler moins vite également, puisqu'ils se battent aussi contre des projets autoroutiers par exemple.
Je pense que les gens se posent la question en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir toujours plus, par exemple, de lignes à grande vitesse qui coûtent extrêmement cher, alors qu'on sait que les TGV en fait, ils sont surtout employés par des catégories supérieures, ou alors mettre de l'argent dans des TER pour redynamiser le tissu local.
Benoît nous dit par mail, on a parlé des mobilisations contre l'installation d'éoliennes. Peut-on vraiment assimiler les éoliennes aux grands projets inutiles dans le contexte de l'urgence écologique ?
Léa Sébastien, vous voulez répondre à cette dernière question ?
Oui, ben c'est ce qu'on appelle, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les parcs éoliens, c'est-à-dire que là, les militants vont pas s'opposer à l'éolienne en particulier, mais vraiment à la gouvernance, à comment c'est amené sur les territoires. Et c'est ce qu'on appelle en anglais de social gap, c'est-à-dire qu'on est pour l'infrastructure en théorie, mais pas dans la manière dont elle est imposée sur le territoire.
Mmh. Un mot très vite, Lauriane Cholez, pour terminer, sur le surf park à côté de Nantes, pour montrer inutile vraiment de ces projets
absurde.
Et absurde, voilà.
Ouais, parce que, alors, donc c'est à Nantes, ils veulent construire un bassin géant pour avoir une vague artificielle à 10 km de la mer. Mm-hmm. Donc c'est une sorte de grosse piscine qui va coûter 12 millions d'euros, consommer 25 millions de litres d'eau et détruire 8 hectares de terres agricoles. À 10 km de la mer où on peut faire du surf déjà.
Voilà, dans l'eau, normalement.
Dans l'eau normale,
sans dépenser tout cet argent.
C'est ça.
Voilà, c'est Reporter, un point net qui publie aujourd'hui donc cette carte des luttes contre les grands projets inutiles, le quotidien de l'écologie. Et puis on peut renvoyer également sur cet ouvrage Résister à ces grands projets aux éditions textuelles que vous co-signez, Léa Sébastien. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues avec nous aujourd'hui dans La Terre au Carré.
La Terre au Carré.
Dans un instant, dans vos solutions pour la planète, un projet pour valoriser les déchets viticoles. Et puis enfin, notre invitée découverte s'appelle Odile Petit. Elle est présidente d'une association Éthosphère qui mène des actions pour la réhabilitation, la resocialisation et le bien-être des animaux. Mais pour le moment, un nouveau reportage de votre série. Antoine Lee, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Avec ceux qui prônent l'autosuffisance. Et aujourd'hui, Antoine, vous nous parlez de serres connectées.
Oui, à l'origine de ce projet, il y a 3 amis ingénieurs qui travaillaient dans la finance. Et un jour, ils ont eu une prise de conscience et ils ont voulu faire quelque chose d'utile. C'est comme ça qu'est né MyFood et leur serre connectée. Le but, c'est de produire de la nourriture locale et favoriser l'autonomie alimentaire. Ces serres sont équipées de poêles à granules pour chauffer et de panneaux solaires pour l'électricité. La particularité ici, c'est qu'ils s'appuient sur des moyens modernes pour optimiser la production. Cette start-up a déjà vendu près de 200 serres connectées dans 14 pays, comme la Corée du Sud, le Canada, le Qatar ou encore l'Afrique du Sud. Johan Nazarali est l'un des fondateurs. Il m'a fait visiter l'une de ces serres connectées au Blanc-Ménil.
On arrive devant la serre. Alors, pour essayer de décrire un peu, c'est une serre qui est en format cathédrale. On a des parois en verre trempé sécurite. C'est comme dans les vitres de voiture. On va rentrer dedans. Alors, on est maintenant dans la serre, dans le cœur du système, où on va permettre de combiner deux technologies qui sont l'aquaponie et la permaculture. Alors, l'aquaponie, c'est quoi? On a des poissons que l'on va nourrir avec de l'alimentation biologique et fatalement, ils vont avoir des déjections. Ils vont vivre leur vie. Les déjections vont être récupérées par notre système d'irrigation et en fait, on voit ici le tuyau qui remonte en haut des tours et qui va venir irriguer en continu les végétaux. Des bactéries vont consommer ces déjections de poissons et les transformer en des éléments assimilables par les plantes. Et les plantes, en se nourrissant, vont filtrer l'eau pour les poissons. Donc on est dans un cycle totalement vertueux, totalement naturel. On ne va utiliser aucun pesticide, aucun fertilisant chimique. Alors là, je viens de décrocher une tour de culture et je vais vous montrer comment on plante dedans. Là, j'ai la tour sur la table et en fait, on voit cette sorte de mousse dans laquelle en fait, je vais insérer mes mottes de culture, donc mes plants, avant de les remettre à la verticale dans la serre au-dessus des bacs à poissons. L'avantage, c'est qu'on a dans cet écosystème de serre la même vie dans un environnement aqueux, dans un environnement de terre, comme on l'a à côté sur les bacs de permaculture. Donc là, je vais remplir mes bacs de permaculture auto-irrigant. Donc je vais simplement m'assurer que le niveau d'eau est bien à niveau et je vais avoir une autonomie quasiment de 1 mois en termes d'eau.
Là, Johan, qu'est-ce qu'on a dans les bacs?
Donc on va avoir un peu d'éléments d'ornement et on a aussi pas mal d'aromatiques. On voit des salades, des choux, du persil plat, du persil, de la coriandre. Alors tout pousse naturellement, totalement. Par exemple, on a eu des attaques dans certaines serres de pucerons. Et pour lutter contre ces attaques, on va apporter des solutions biologiques comme des auxiliaires de culture, des coccinelles, des chrysopes ou des micro-guêpes qui vont venir s'attaquer aux ravageurs tout en n'ayant pas recours à des produits chimiques.
En quoi cette serre est-elle connectée?
L'idée, c'est d'être assisté par des agronomes dont c'est le métier. Alors, si on regarde un petit peu, on voit quelques câblages et des capteurs dans l'eau. Ces capteurs vont mesurer les éléments actifs de la serre, donc le pH, l'acidité de l'eau, la température, l'humidité, et vont aider un utilisateur lambda à avoir des meilleures performances agronomiques en lui envoyant une notification par rapport à ce qu'il a à faire. Imaginez-vous rentrer un jour chez vous, voyez votre salade malade, c'est une catastrophe. Bah, on la prend en photo, on la partage à la communauté et là, il va y avoir d'un côté les autres propriétaires de la serre et l'agronome qui vont vous aider à vous diagnostiquer le problème et donner la solution biologique pour lutter contre l'éventuelle maladie qu'il peut y avoir.
En quoi cette serre connectée, c'est une solution pour l'environnement dans un avenir proche?
Imaginez-vous dans un futur proche où il n'y a plus de pétrole, où il n'y a plus de moyen de circuler parce que, je ne sais pas, il n'y a plus de route. Vous êtes chez vous et dans votre jardin, il y a une serre qui vous permet de vous alimenter toute l'année sans polluer. C'est juste d'un côté magique et même en termes d'expérientiel, c'est incroyable de se dire « j'ai une manière active de contribuer à ma santé et au bien-être environnemental en ne polluant pas lorsque je produis des légumes ». Dès le moment où on devient autonome vis-à-vis de son alimentation, il n'y a plus besoin de transporter des végétaux jusqu'à demeure. Donc on va économiser tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Une serre comme ça permet d'économiser jusqu'à 4 tonnes de CO2. Et on va aussi se reconnecter à son alimentation dans le sens où on va devenir acteur de sa propre nutrition. On passe moins de 10 minutes par jour dans une serre comme la nôtre pour avoir jusqu'à 400 kg de production annuelle.
Et ça coûte combien une serre connectée, Antoine ?
Eh bien, ça dépend de la taille. Ces serres mesurent de 1 mètre carré à 200 mètres carrés. Les prix, quant à eux, varient de 500 euros à 8000 euros. Les photos sont, comme d'habitude, sur la page Facebook de la Terre au Carré.
Pour voir à quoi tout cela ressemble, demain, vous nous parlez de quoi, Antoine ?
Je vous parlerai de l'habitat low-tech ou comment se loger avec un bilan énergétique quasi nul.
Et en attendant, on peut réécouter votre reportage sur franceinter.fr. À demain.
À demain.
France Inter. La Terre au Carré. Solutions pour la planète.
Et on me souffle dans l'oreillette que Christine est prête. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes au Bourget du Lac, à côté de Chambéry. Vous êtes enseignante-chercheure à l'Université Savoie-Mont-Blanc et coordinatrice avec Grégory Châtel de ce projet Vitivalo, dont vous allez nous parler, et qui concerne donc la valorisation des déchets viticoles, c'est ça?
C'est ça. Donc on a démarré le projet fin 2017. Suite à la mise en place d'un arrêté préfectoral qui interdit le brûlage à l'air libre des déchets bois de toutes les activités viticoles. Et donc ce projet qui rassemble, qui est en fait un programme collaboratif territorial qui rassemble 35 partenaires, vise à valoriser les déchets bois de la viticulture et des pépinières viticoles sur le territoire Savoie-Mont-Blanc.
Parce que ça pollue beaucoup tout ça, cette activité ?
Alors en fait, le brûlage à l'air libre est fort émetteur de particules fines. Quand on brûle à l'air libre des déchets bois comme des sarments, on émet entre 0,14 et 0,30 grammes par kilo de bois brûlé, ce qui est en fait une grande source d'émissions de particules fines.
Et brûler à l'air libre, vous l'avez évoqué, c'est interdit, mais les viticulteurs et d'autres agriculteurs d'ailleurs continuent à le faire aujourd'hui ?
Alors en fait, sur les autres régions viticoles françaises, il y a pas mal de régions qui continuent à brûler parce qu'en fait, nous, on est la seule région sur laquelle il y a un arrêté qui interdit ce brûlage. Et sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, on a fait une enquête et il y aurait encore à peu près 15% des déchets qui seraient brûlés, surtout parce que pour l'instant, les viticulteurs ne savaient pas quoi faire de leurs déchets.
Et Christine, vous avez en Savoie justement une très forte activité de pépinière viticole, hein ?
Oui, c'est ça. En fait, la Savoie, c'est pas très connu, produit une grande majorité des plants de vigne qui sont ensuite utilisés dans les différentes régions viticoles françaises avec tous les cépages français qui peuvent être plantés par la suite.
70%, m'a-t-on dit. Hein. C'est vrai ? C'est
oui,
le bon
c'est
chiffre
ça.
Des
oui,
pieds
oui,
de vigne français produits,
donc, de vigne.
Voilà, produits en Savoie.
Et donc, vous parlez des déchets. Donc, vous avez parlé des sarments. Qu'est-ce que c'est les autres déchets viticoles ? C'est donc justement ces pieds de vigne, quoi d'autre ?
Alors, on a les pieds de vigne qui sont en fait arrachés surtout à cause de quand ils prennent des maladies ou alors qu'ils sont trop vieux. Et puis, au niveau des pépinières viticoles, en fait, c'est tous les déchets de coupe des plants qui poussent et puis tous les plants qui n'ont pas pris également, qui du coup deviennent un déchet à valoriser.
Alors, Christine, ce sont les viticulteurs eux-mêmes qui vous ont sollicité pour essayer de trouver des solutions justement pour ces déchets ?
C'est ça, en fait, on a eu une réunion à la préfecture qui présentait l'arrêté préfectoral et les viticulteurs se sont tournés vers nous en nous disant bah, « qu'est-ce qu'on va faire maintenant de nos déchets puisqu'on ne peut plus les brûler ? Est-ce que vous pouvez essayer de développer des voies de valorisation ?»
Parce que ça produit beaucoup de déchets, vous avez un chiffre sur la quantité produite chaque année par exemple ?
On a fait une enquête qui montre qu'on aurait sur le territoire Savoie-Mont-Blanc, donc c'est-à-dire département de la Savoie et de la Haute-Savoie, 28 000 mètres cubes par an de déchets bois qui seraient valorisables.
Et donc Christine, tout le monde s'est mis au boulot pour essayer de trouver des solutions et évidemment, puisque vous êtes là, vous en avez trouvé.
Alors c'est ça, on a depuis fin 2017, on a exploré plusieurs voies de valorisation en proposant de faire une cascade de valorisation. Donc la première voie de valorisation, c'est aller extraire des molécules chimiques qui sont présentes dans ces sarments, notamment deux molécules, le resvératrol et la viniférine, qui sont ensuite utilisées en complément alimentaire et en cosmétique. Et donc après avoir extrait ces molécules, qui ont déjà des applications qui existent, on a un résidu bois qui est une poudre bois qu'on a testé comme et compostage et également comme amendement de sol. Mmh. Et puis par la suite, on va aussi tester avec cette poudre bois qui est notre résidu, de manière à avoir une démarche zéro déchet. On va tester si elle peut être utilisée dans des matériaux composites ou comme isolant par exemple.
Et vous avez eu des résultats sur la qualité de l'air et l'impact environnemental de votre travail également ?
Alors sur la qualité de l'air, pour l'instant on a juste fait donc les mesures de des émissions de particules lors du brûlage et on va faire une campagne fin janvier et début février en Combe de Savoie pour mesurer l'impact sur la qualité de l'air.
Les viticulteurs étaient très demandeurs de ces recherches, Christine. Il y avait vraiment quelque chose à trouver de façon urgente pour les aider?
Oui, c'est ça. À la fois, ils étaient demandeurs de savoir vraiment si ça, c'est émetteur de polluants pour l'atmosphère, et également savoir si qu'est-ce qui pouvait être fait à partir de cette biomasse qui, en fait, pour nous, n'est pas un déchet mais plutôt une ressource.
C'est ça.
Et vous, Christine, donc qui êtes enseignante chercheure à l'université, un projet qui vous permet également d'avancer dans vos travaux.
Oui, c'est ça. En fait, ce projet, c'est à la fois un programme territorial et aussi un projet de recherche qui nous permet d'avoir des résultats scientifiques, notamment les émissions de particules fines par le brûlage sur ce type de déchets, ça n'avait jamais été réalisé au préalable. Et également sur connaître, par exemple, la quantité de molécules qu'on peut retrouver dans cette biomasse, ça n'avait pas été mesuré au préalable également.
Donc le projet continue là dans les mois, les années qui viennent?
Oui, c'est ça. Là, on attaque la phase 2 du projet qui est vraiment une mise en place de la filière, une réalisation opérationnelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on est resté à l'échelle laboratoire et l'objectif, c'est de passer à plus grande échelle et de mettre en place sur le territoire une véritable filière qui permettrait aussi d'apporter une valeur économique. Mmh. Et l'objectif également, c'est de démontrer la faisabilité sur notre territoire Savoie-Mont-Blanc et ensuite de pouvoir l'exporter sur d'autres régions viticoles françaises.
Eh bien, bravo Christine, merci en tout cas pour toutes ces précisions avec ce projet Vitivalo. Et on peut tout savoir sur votre site internet que Chantal Le Montagnier a mis en ligne, évidemment, sur le site de l'émission. Merci à vous, très bonne journée en Savoie. D'ailleurs, si vous aussi qui nous écoutez, vous avez des projets dont vous êtes à l'initiative,
vous nous écrivez, France Inter, et Chantal sera vraiment contente de vous recontacter.
Voilà, et vous passerez bientôt dans l'émission franceinter.fr. Dans un instant, Camille, notre invitée découverte, va nous présenter l'association Éthosphère qui mène des actions pour la réhabilitation et le bien-être des animaux.
Qui a dit qu'on le referait une autre fois? Bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien, mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de maintenant, c'est simple comme au revoir. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas. Bientôt, je sens plus ma langue, mord le coussin, crie à toi de voir. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Le désir passe, je suis pas sûr qu'il ait bien fait s'avancer d'un pas. Elle refuse puis elle cède un peu, ça va les rendre fous comme la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas. Bien sûr il s'agit pas de nous, ces histoires l'amour hippie. Baisse-moi avec de l'amour hippie. T'es pas très belle mais t'as beaucoup de charme. J'ai encore du miel sur les lèvres, je suis un goujat. Qui peut se moquer durant toute la prémon gaine? Ce monde est froid comme ok. Glisse-toi entre mon corps et la moquette. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain.
Regarde-moi.
Je vous regarde.
Merci
monsieur.
Camille. C'était l'homme pâle.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Mais nous allons regarder surtout Odile Petit, qui est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS en éthologie et présidente de l'association Éthosphère. Alors, vous êtes éthologiste. De quoi s'occupe ce professionnel exactement?
Alors, l'éthologiste, il cherche à comprendre ce que l'animal perçoit de son environnement, comment il va réagir de manière la plus adaptée possible, quels vont être son choix, comment il va aussi interagir avec son environnement, qu'il soit physique ou social. Voilà, sur des thématiques bien... Enfin, très différentes, ça peut être de la communication, ça peut être comprendre les prises de risque, ça peut être la décision collective des déplacements collectifs. Voilà, c'est très varié.
L'éthologie, on peut dire éthologue aussi. On est d'accord. Donc vous êtes spécialiste du comportement social des animaux, les chèvres, les babouins, les macaques ou les étalons. C'est quoi le point commun finalement entre toutes ces bêtes?
C'est des espèces sociales. Voilà, moi je travaille sur les relations sociales et j'essaye d'expliquer qu'il n'y a pas que la hiérarchie et la dominance dans la vie, que le commun des mortels pense souvent quand on pense espèce animale et espèce sociale, et qu'il y a beaucoup de relations positives et beaucoup plus de coopération dans le monde animal que de compétition.
Et votre association, alors, elle a quel but précis?
Alors, notre association, elle veut accompagner la réhabilitation des animaux en fin de protocole expérimental, c'est-à-dire les animaux qui vont pas être euthanasiés à la fin des manips, mais qui vont partir à la retraite.
Donc, ils sont dans les laboratoires.
Ceux qui sont testés.
Alors, ceux qui sont testés, c'est très large, hein, la recherche sur l'animal, elle est très diverse. Et nous, on intervient soit en amont pour promouvoir le bien-être dans les structures, que ce soit pour l'élevage, ou aussi pendant les manips. On essaye de faire prendre conscience aux chercheurs et aux techniciens quel est le bien-être, comment est le bien-être, ce qu'est le bien-être animal et comment on peut l'améliorer. Et après, à la sortie, quand les animaux sont accueillis dans des structures pour leur retraite, on intervient parce que souvent les animaux sont élevés de manière isolée et nous, on les resocialise parce que c'est un vrai problème, l'isolement social à plein d'étapes de la vie des animaux. Et c'est une vraie souffrance pour les animaux, cet isolement social, puisque c'est un besoin naturel et absolument essentiel.
La question du bien-être animal au sein des animaleries, hein, donc des laboratoires d'expérimentation, c'est un sujet ultra épidermique quand même.
Alors épidermique, mais le ministère a mis en place beaucoup de décisions comme les comités d'éthique, la structure de bien-être animal. Les chercheurs en sont conscients, les techniciens aussi, et ils font leur maximum pour le bien-être. Mais après, ils n'ont pas forcément les compétences. Et pas forcément, ils réalisent pas forcément, en fait. Il y a souvent pas assez de prise de conscience. Donc nous, c'est vrai que c'est là où on intervient et on essaye de former les gens. Parce que pour savoir qu'un animal va mal, bah, il faut pouvoir lire son comportement, il faut pouvoir le comprendre et après pour pouvoir agir.
Et quel type d'expériences sont menées sur, j'imagine, donc beaucoup de différents animaux, hein. Mathieu disait des chèvres, des orang-outans, des chevaux.
Moi, je vais pas pouvoir vous expliquer.
Ah, vous en servez pas pour comprendre derrière la réhabilitation,
alors,
par exemple.
Sur l'éthologie, oui. Nous, on étudie les animaux pour donc pouvoir après améliorer, mais c'est pas nous. Enfin, je sais pas. Votre question, elle portait sur
quelles expériences ils subissent entre guillemets pour ensuite vous pouvoir les réhabiliter. J'imagine qu'il y a pas les mêmes conséquences suivant ce qu'on leur fait.
Il y a pas d'orang-outans, hein, entre parenthèses.
Il y a pas de grands singes. La recherche est interdite dorénavant sur les grands singes. Alors moi, l'histoire de l'animal en termes d'expérimentation, je m'y intéresse pas particulièrement. Moi, c'est l'histoire sociale de l'animal. C'est-à-dire, est-ce que l'animal a été isolé? Est-ce qu'il a eu une expérience sociale négative avec des congénères? Parce qu'à un moment, il était avec un individu. Cet individu est parti dans un autre protocole, dans un autre labo. Donc l'animal se retrouve seul. Il va avec un autre animal. Ça se passe pas bien. Tous ces échecs éventuellement sociaux que l'animal a pu vivre, c'est des traumatismes qui fait qu'après, moi, derrière, quand je dois le mettre en contact avec d'autres animaux, parce que c'est indispensable qu'ils aient une retraite en groupe social, eh bien, ces traumatismes-là, sociaux, vont pouvoir avoir des conséquences sur le succès d'une mise en contact pour la retraite.
Alors, avant ce travail, on va en parler avec vous, quels sont les conseils que vous pouvez donner justement à un laborantin qui est en contact permanent, par exemple, avec des macaques qu'il peut manipuler sans être conscient du mal qu'il lui fait?
Alors, c'est pas le mal qu'il lui fait, c'est-à-dire qu'en fait, il va pas
être... la souffrance qu'il peut générer.
Il va pas être capable... Le mal-être, oui, parce qu'il va pas être capable, par exemple, de se rendre compte que s'il arrive trop brutalement, enfin, s'il arrive trop directement sur l'animal, s'il fait pas attention de le renforcer positivement pour le faire coopérer, Si, par exemple, il le regarde directement dans les yeux, c'est une menace directe. S'il n'est pas capable de se rendre compte que cet animal, il est en groupe social, mais qu'il va pas bien, qu'il est prostré, c'est qu'il y a un problème social qui s'est passé avant que lui arrive, ou que, eh bien, il y a des déséquilibres dans le groupe. Voilà, tout ça, il va falloir être capable de le lire, de l'interpréter, pour pouvoir apporter des solutions.
Mais comment on resocialise, par exemple, un macaque qui aura passé beaucoup de temps tout seul dans une cage, alors qu'il est plutôt, évidemment, un animal vivant au sein d'un groupe, ou encore un étalon? Même chose pour les chevaux, hein.
Oui, on a le même problème avec les chevaux. Alors, pour resocialiser un animal, eh bien, déjà, on va essayer d'évaluer son tempérament, on va essayer de lui trouver un partenaire compatible. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'allez pas mettre ensemble deux animaux qui ont exactement la même corpulence et qui vont vouloir être dominants tous les deux. Donc, on a des étapes. On essaye, par exemple, de les mettre chaque côté d'une grille qui leur permet d'avoir un contact, mais sécurisé. Et là, si jamais aucun des deux ne lâche l'affaire, si un continue, les deux continuent à menacer, je sais que ça ne va pas être possible. Si jamais un des deux commence à exprimer des mimiques de soumission, je me dis, bon, ça va être possible. Mais après, attention, quand je passe au contact physique, c'est eux qui décident s'ils sont d'accord ou pas. Et en plus, c'est une phase très très délicate, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait conflit. Il faut qu'il y ait confrontation pour qu'ils décident de la relation qu'ils vont avoir. Et c'est toujours un petit peu stressant du côté de l'humain qui est en train de les mettre ensemble.
Et est-ce que vous réussissez, entre guillemets, à chaque fois?
Alors, je réussis souvent, mais il m'arrive d'avoir des échecs. Alors, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai mis un mâle avec deux autres mâles. Je savais que la paire qui était constituée...
Un
mâle macaque de Java, avec deux autres mâles macaques de Java, sauf que j'avais affaire à une paire de vieux mâles qui étaient très dans la routine, et ils n'ont pas supporté d'avoir un troisième. Et
ils l'ont attaqué?
Oui, ils l'ont blessé à plusieurs reprises et à un moment, j'ai décidé d'arrêter parce que ce mâle-là, si jamais il est trop traumatisé, je peux pas le resocialiser après. Donc j'ai arrêté les frais et après j'ai réussi à le resocialiser avec une femelle. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Et pour les étalons, bah ça peut marcher très bien. On a un système, on a développé un système de box social où les animaux, là, je peux vraiment tester la compatibilité parce que les animaux peuvent vraiment exprimer toute leur ritualisation, tout leur bluff, etc. Et je peux savoir si ça va aller ou pas. Et il y a des échecs. On a eu un problème avec un pur sang arabe, mais je pense que parce que sur certains animaux, sur certaines races de chevaux avec un certain tempérament, en fait, la désocialisation, elle est délétère. C'est-à-dire que les animaux, ils n'arrivent pas à revenir. Ils sont plus capables. Alors, je dis pas. J'aurais pu le remettre certainement avec des juments. Mais avec des autres étalons, il avait pas les codes.
Et dans ce cas-là, il finit tout seul dans un box ou?
Oui. Là, il est tout seul dans un box.
Et oui, vous avez des structures qui accueillent ces animaux en maison de retraite, on pourrait presque dire des choses comme ça.
C'est exactement ça. Et ça, on a besoin absolument que de nouvelles structures se développent. Le souci, c'est que ça coûte de l'argent. Par exemple, un macaque qui va sortir de labo à 10, 12 ans, il vit jusqu'à 20, 30 ans. Ça mange tous les jours, il faut des soins, ça coûte de l'argent en soins vétérinaires. Et en fait, il n'y a rien qui est prévu pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment, et au niveau du ministère, mais aussi au niveau des projets de recherche, des financements, qu'on envisage d'intégrer la vie future de l'animal au moment où on dépose des demandes de projet, où on dépose des autorisations au comité d'éthique. Il faut que ce soit pris en compte. C'est de notre responsabilité en tant que chercheur de respecter l'animal jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie à lui.
Et une fin de vie naturelle, entre guillemets,
naturelle,
qui ne passe,
heureuse,
pas par le, qui ne passe pas par l'euthanasie. Hein, puisque
exactement.
Le but,
et on peut
ça,
sortir plein d'animaux de labo parce que il y a des conditions. Bien sûr, il faut que l'animal il soit sain, il faut qu'il ne soit pas un danger pour lui, pour ses congénères. Mais il y a plein de possibilités de les sortir. Les chercheurs, ils sont pas contre du tout, hein, parce que je peux vous dire que dans les animaleries, des animaux qui attendent de sortir ou qui ne sont plus utilisés, il y en a plein, parce que les gens n'ont pas envie de s'en séparer, parce qu'ils ont envie d'une fin heureuse pour ces animaux. Mais il faut trouver les structures. Alors il se trouve que là, il y a quelques structures qui acceptent, dont le zoo refuge La Tanière à côté de Chartres. Mais ça y est, le zoo est plein. Pour les primates de laboratoire, il y a plus de place. Donc il faudrait pouvoir après les mettre dans d'autres zoos. Mais c'est des espèces qui sont pas très funky pour des zoos.
Pourquoi?
Bah parce que c'est marron, parce qu'il y aura pas de bébé, parce qu'il y aura pas de reproduction. Alors que si jamais on apprend au public qu'un groupe social, il y a plein de choses à observer, que c'est pas juste le bébé mignon dans son coin, ça serait très intéressant. On pourrait faire de la pédagogie, on pourrait apprendre à respecter l'animal. Mais voilà, c'est pas la culture actuelle de tous les zoos, et puis ça coûte de l'argent.
Et comment vous faites pour travailler concrètement? Du coup, vous vous déplacez dans les différents lieux ou vous vous
alors
les faites
moi, je
venir
me
quand il y a pas de refuge?
Alors moi, je me déplace en effet. Alors si jamais les laboratoires font appel à nous, on se déplace de manière bénévole pour donner des conseils, pour faire des formations. Et puis, je me déplace dans les structures quand il y a besoin de mettre des animaux en contact ou juste de vérifier la fonctionnalité d'un groupe. Il m'arrive très souvent, après les formations que je dispense au CNRS, que des techniciens de zoo, des soigneurs animaliers, me contactent par email pour me demander « Ah, mais je voudrais mettre un tel en contact, comment je peux faire ?»
Merci beaucoup, Odile Petit, éthologiste donc et directrice de recherche au CNRS et présidente de cette association Éthosphère. On a mis les liens sur le site de la Terre au Carré.
C'est très gentil, on a besoin de soutien. Merci
à vous d'être venu nous en parler.